Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fou !
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
C'est fou. C'est pas normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi. Les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais faites quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
et ouais. Quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non, mais c'était dingo, là.
Il faudrait construire des asiles de cons, et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
Désolé de vous faire attendre.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
monsieur. Bonjour. Bonjour. Désolé de vous faire attendre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour.
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 Ça a l'air d'être un endroit chaleureux.
Alors, j'aime beaucoup la tapisserie bleue. C'est pas une tapisserie, c'est une peinture, c'est une fresque. C'est une fresque. Et j'aime beaucoup ce bleu et l'éclairage qui vient d'en bas. Et les miroirs qui réfléchissent une perspective infinie si vous regardez par la caméra.
Amour sacré.
Sympa, on aimerait bien y vivre ici d'ailleurs. Hein, ça peut être sympa, non? Petit appart ici.
Ah, c'est super parce que on touche le tapis, c'est doux, c'est bien, y a pas de poussière.
Et la trace.
Et si je pouvais emménager ici, là, ça ira. Des lumières qui imitent des flammes de bougies. Franchement, c'est un endroit superbe.
Bon, repose. Un petit loft pour les entonnoirs.
Ouais, c'est
en plein
bien.
Paris.
Ouais.
Allez.
Ah ouais. Ah ouais, les fauteuils en cuir, et puis là, le tapis, là, ça le fait. Et puis, je suis vraiment content, ému de rencontrer Frédéric. Frédéric, hein. Bon. Je suis vraiment content, quoi.
Et voilà, donc je vais voir le ministre de la Culture.
Bonjour. On va dans mon bureau.
Oui.
Juste un instant.
Oui.
Prenez des chaises autour de vous.
Eh bien, Monsieur Mitterrand, bonjour et merci de votre accueil ici au ministère de la Culture.
Vous êtes les bienvenus.
Eh bien, écoutez, nous, on est vraiment très honorés d'être reçus par vos soins. Et sachez que vous avez la représentation d'une partie de l'équipe des Entonnoirs. Nous ne sommes pas au complet. D'autres personnes nous attendent sur l'île. On a aussi un psychiatre qui devait être présent aujourd'hui, mais qui est pris par son activité professionnelle, qui est le docteur Portenard, qui n'a pas pu venir. Et on est aussi, donc c'est l'ensemble des partenaires aussi qui ont pu créer ce projet, dont le chef de projet, Eric Schroeder, est ici parmi nous. Donc voilà, on est que des représentants ici au ministère de la Culture. Voilà. Et donc on va commencer par en fait, on a préparé des questions, un certain nombre de questions qu'on va vous poser.
D'accord.
Et donc voilà. Donc on va commencer
par. Je vous attends de pied ferme.
Alors allons-y.
Commençons par Blandine. Blandine, je vous laisse la parole.
Blandine. D'accord.
Quel est le sens aujourd'hui de la récompense à Madame Schroeder, instigatrice du projet des Entonnoirs?
Écoutez, j'essaye avec mes collaborateurs et notamment Francis Lacloche ici présent, j'essaye de rapprocher l'action du ministère de la Culture de tous les gens, les associations, les fanzines, les groupes de quartier, de tous les gens qui ont des pratiques culturelles ou qui amènent à la culture des publics qu'on dit empêchés ou des publics qui sont intimidés par la culture en général, qui passent devant des musées en disant c'est très bien mais c'est pas pour nous, qui passent devant des théâtres en disant c'est très bien mais c'est pas pour nous, et pour leur et donc il y a des gens comme Madame Schroeder et d'autres qui se donnent beaucoup de mal pour essayer de rapprocher ces publics de l'idée de la culture. Et puis il y a une idée aussi qui est très importante, c'est que au ministère de la Culture, on dit toujours qu'on veut rapprocher des publics, mais est-ce qu'on se rapproche d'eux en fait? Est-ce que nous on fait l'effort inverse? Parce que en vérité, même les gens dont on dit qu'ils n'ont pas de pratiques culturelles, en fait ils ont des pratiques culturelles. En fait ils font des choses. Ils font des choses qui ne sont pas reconnues. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes, mais à la limite, on n'a pas à faire, nous, une échelle de valeur. On a simplement à leur donner l'occasion de s'exprimer. Si vous prenez l'exemple de la fête de la musique, par exemple, vous voyez surgir de partout des gens qui font de la musique et des gens qui ne sont pas reconnus pendant le reste de l'année. Donc, le problème de l'accès à la culture, c'est aussi le problème de l'accès du ministère de la Culture aux gens qui font des choses qu'on ne reconnaît pas suffisamment. Prenez un autre exemple, prenez l'exemple des tags. Les tags, c'est considéré comme étant quelque chose qui abîme la ville, qui dénature l'environnement, etc. Mais en même temps, on peut prendre les choses d'un autre point de vue. On peut dire qu'effectivement, dans certaines circonstances, les tags abîment la ville, mais que dans d'autres circonstances, ils sont l'expression d'une vraie construction culturelle. Et est-ce qu'on est suffisamment attentif à ça? Est-ce qu'on essaye de trouver le moyen que ça s'exprime d'une manière qui ne soit pas offensante pour les autres citoyens, mais qui permette à ceux qui le font de s'exprimer aussi? Voilà. Donc ce genre de récompenses, comme celles qui vont être remises tout à l'heure, eh bien, ce sont des récompenses qui veulent saluer le travail qui est fait dans ce domaine.
Merci beaucoup.
Voilà.
Alors, bonsoir et bienvenue à vous tous dans cette maison qui est la vôtre. Je suis très heureux de vous recevoir. Très heureux de vous recevoir parce que tous ceux qui travaillent sur les médias de quartier et tous ceux qui permettent d'appréhender pour nous d'une manière peut-être plus efficace ou mieux l'ancienne question de la démocratisation culturelle, tout cela nous sont vraiment nos alliés et nous leur devons beaucoup de gratitude.
Et quand on, tout à l'heure, je parlais avec les entonnoirs, quand on se pose la question de l'accès à la culture, il faut évidemment qu'on se pose une double question. Pour ceux qui m'ont entendu tout à l'heure avec les entonnoirs, je me répète, mais disons que je me répète sur un sujet qui est vraiment qui nous taraude ici au ministère avec Francis Lacloche et Vincent Perrenne que vous avez vu aujourd'hui. C'est que il faut évidemment trouver le moyen pour que chacun puisse accéder à la culture telle qu'elle existe et à des pratiques artistiques telles qu'elles existent, mais il faut que le ministère aussi ait accès à ceux qui ont des pratiques culturelles qui ne sont pas reconnues injustement. Et en fait, le problème de l'accès à la culture, c'est ça marche dans les deux sens. Or, vous qui êtes ici, vous êtes ceux qui permettez que cela marche dans les deux sens. Et c'est pourquoi vous êtes vraiment indispensables. Et c'est pourquoi je suis particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors, les décorations, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas, ça ne se porte pas, on dit. Bon, la dernière partie, je suis pas tout à fait d'accord. Si on vous donne des décorations, c'est pour les porter. Mais je sais très bien que vous n'avez pas cherché des décorations dans ce que vous avez fait et que ça a peut-être un côté un peu futile. En même temps, c'est quand même un signe. C'est un vrai signe de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance de la République. C'est un signe de reconnaissance de la citoyenneté. Et quand on le regarde sous cet angle-là, il ne faut pas en retirer ni de la dérision, ni de la fierté mal placée. Il faut reconnaître ce que c'est, c'est-à-dire un geste de la République, qui est un geste de gratitude à votre égard, parce que la République vous doit quelque chose, et vous doit notamment la reconnaissance, et vous doit l'encouragement, et vous doit la considération, et vous doit le respect. Et une décoration, c'est une marque de respect, une forte marque de respect. En plus, c'est la décoration du ministère de la Culture. Vous savez que quand Malraux a créé le ministère de la Culture, tous les ministères avaient des décorations. Et le général de Gaulle a dit, bon, on va mettre toutes les décorations ensemble, on va faire une seule décoration qui sera le mérite. Et André Malraux a dit, non, pour la culture, c'est particulier, il faut que la culture garde sa décoration. Donc finalement, l'ordre des arts et lettres, l'université a fait la même chose d'ailleurs, et l'agriculture aussi. C'est pour ça qu'il y a les palmes académiques. Et pas l'agriculture, il y a les palmes académiques. Et c'est juste l'université et le ministère de la Culture. Ce qui fait que l'ordre des arts et lettres est ce que l'on appelle un des quatre grands ordres nationaux. Et en France, cette considération qui vous est portée, bien, les gens qui sauront que vous l'avez obtenu par vos mérites, eh bien, ça fera un petit déclic en eux. Et ce petit déclic, j'espère qu'il vous aidera dans votre action. Et alors, si vous allez à l'étranger, alors là, vous serez surpris de voir à quel point l'ordre des arts et lettres est admiré à l'étranger. Et comme ça apparaît comme vraiment... Un symbole très très fort des mérites qui vous sont reconnus.
Les entonnoirs.
Ici des fous.
Pardon ?
Ici des fous.
Bonjour, je suis très ému de vous voir. De vous
Mais il ne faut pas être ému.
Voilà, donc moi je vais vous poser cette question.
Parlez un peu plus fort, parce que je sors d'un hélicoptère.
Je vais vous poser
cette... J'ai dans les oreilles complètement bouchées. Je voilà. Suis enrhumé, plus l'hélicoptère, je suis totalement...
Donc voilà, je vais vous poser cette question. Que pensez-vous du concept des entonnoirs, en fait?
Du concept des entonnoirs?
Oui.
Mais c'est très compliqué, moi, de vous répondre, parce que si je vous dis que c'est génial, vous allez penser que je suis un démagogue, et que je fais ça pour être gentil. Mais c'est vrai, je trouve ça génial. Excusez que je vous dise de plus, je trouve ça formidable.
D'accord.
Et puis je suis très content de vous avoir. Mais si je dis tout ça, on va dire, ah, il fait le beau gentil garçon et tout. Mais en vérité, parlons pas des entonnoirs, parlons de toutes les initiatives. Parlons de toutes les initiatives comme celles que vous portez. Il y en a beaucoup. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul, c'est pas du tout pour vous diminuer, je dis ça. Au contraire, c'est pour vous saluer. Ouais. Mais vous n'êtes pas seul. Et il y a beaucoup d'initiatives comme celle-là. Et avec Francis Lacloche, nous avons eu la chance de pouvoir voir un certain nombre d'associations ou un certain nombre de gens comme vous dans d'autres domaines qui font des choses très très intéressantes. Pour vous donner un exemple, ce matin, je ne fais pas de parallèle. Hein, je ne fais pas de parallèle. Ne le prenez pas comme un parallèle, mais comme un complément. Ce matin, je suis allé faire le journal qu'on appelle le Papotin, avec des jeunes qui sont en très grande difficulté et qui ont des problèmes d'autisme, des choses comme ça. Et vraiment, c'était formidable. Hein. Et je crois qu'ils ont senti que j'étais sincèrement à leur écoute. Et il y a une demande incroyable d'échange, de partage dans notre pays. Et ça passe par la culture. C'est la culture qui passe comme il y a la culture et le sport. Hein. Mais la culture est ressentie comme un besoin très très fort, même par des gens qui disent oh non, etc. Et des groupes comme le vôtre sont des groupes mais essentiels à la vie de la cité, essentiels. Et vous recevoir, pour moi c'est un plaisir, mais c'est aussi un devoir, c'est de vous faire sentir. Vous essayez de vous encourager, de vous faire sentir qu'on est à votre écoute. Et alors c'est juste un moment fugace comme ça, hein. Mais moi je m'en souviendrai et vous en souviendrez. Alors ça nous sert. Ça nous sert vous et ça me sert moi. Et ça sert les gens qui m'entourent.
Nous nous réunissons aujourd'hui pour marquer l'aboutissement d'un processus assez long, mais qui va s'inscrire en profondeur dans le champ d'intervention du ministère de la Culture et de la Communication que j'ai l'honneur de servir. Je regrette de ne pas avoir pu participer, comme je l'avais prévu, aux débats qui vous ont réunis cet après-midi. Mais je profite de cette occasion, durant laquelle j'ai souhaité honorer le parcours remarquable de certains d'entre vous, pour vous renouveler l'expression de l'engagement du ministère de la Culture et de la Communication en faveur des médias dits de quartier, mais qui au fond couvrent un territoire dépassant largement les frontières géographiques du quartier et s'intéressent avant tout à des publics qui ne se retrouvent pas ou que partiellement dans le traitement des médias traditionnels. En 2008, l'agence Ressources Urbaines dressait le portrait de cette vaste famille, jusqu'alors mal connue de mon ministère, qui réunit des médias, écrivait-elle, élaborés d'abord pour s'affirmer par opposition à d'autres secteurs de la société, tout en revendiquant un fort désir d'intégration au reste de la société. Dans son rapport remis à la délégation interministérielle à la ville, l'agence a ajouté que ces traits de caractère contradictoire révèlent le sentiment de marginalisation des habitants qui parlent à travers ces médias et en même temps leur appropriation de cette marginalisation pour définir une culture propre, culture elle-même susceptible à son tour d'irriguer la culture dominante au monde.
Auriez-vous une définition de la maladie mentale ou préféreriez-vous l'appeler trouble mental ou handicap mental ou ce que vous voulez, voilà.
Moi, le mot qui me gêne là-dedans, c'est mental, en fait. Je ne sais pas ce que ça recouvre, mental. Mental, ça a à voir avec l'intelligence. Or, on ne parle pas de trouble de l'intelligence. Je dirais difficulté au pluriel. Je dirais plutôt difficulté psychologique. Mais je le dirais d'autant plus que moi j'en ai eu. Comme tout le monde. Et alors il y a des périodes où c'est plus ou moins. Il y a des gens et des périodes pour qui c'est plus ou moins sévère. Pour qui c'est plus ou moins handicapant. Mais moi, j'ai des souvenirs de périodes de désarroi ou de détresse personnelle où j'étais totalement perdu. Et j'ai, d'ailleurs, j'ai fait une analyse qui m'a énormément aidé pendant 2 ans. C'est pas long, 2 ans. J'aurais dû continuer peut-être. Mais d'ailleurs, je suis parti de l'analyse sans payer mes 2 dernières séances. Et j'ai compris que c'était parce que c'était une manière pour moi de continuer, en fait, de laisser la chose ouverte. Et j'ai d'ailleurs revu l'analyste fortuitement, par hasard, il y a quelques mois. Et j'étais très ému de le voir. Et il était très gentil, très sympathique. Alors que dans le contexte de l'analyse, il était un vrai analyste, c'est-à-dire il ne me passait rien. Mais voilà, alors je sais qu'il y a des troubles. Je sais qu'il y a des troubles qui, quelquefois, sont si lourds qu'ils handicapent la relation sociale gravement. Et à ce moment-là, on est obligé d'avoir recours à des traitements. Enfin, bon. Moi, je me souviens, pendant la période où j'étais le plus déprimé, j'avais toujours du Tranxène avec moi. Et c'était le fait de l'avoir qui me rassurait. Et puis un jour, je l'ai plus, et voilà, et je m'en suis séparé, j'en avais plus besoin, je l'ai oublié. Et voilà, mais peut-être que la détresse que j'avais aurait pu devenir plus sévère, et à ce moment-là, elle m'aurait handicapé. J'ai eu la chance, ça a correspondu au moment où j'ai commencé à faire de la télévision. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un mécanisme créatif. Et je crois que la création est une manière de prendre en charge les difficultés que l'on a et d'en faire quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, c'est très très pris en compte, cela. Quand on va au musée de Villeneuve-d'Ascq, qu'on voit les œuvres faites par des patients, des gens donc qui avaient des troubles sévères, et on voit bien ce qu'ils ont réussi à créer avec ça. Donc ce que je pense profondément, c'est qu'il n'y a pas de situation sans issue. Alors, peut-être que certains troubles ont mal vu, mal répertorié, mal entouré, mal accompagné, ont entraîné des dérapages presque inéluctables. Et quand on voit les films de Raymond Depardon, quand on voit ces choses-là, on se dit que là, rattraper les gens, c'est très très difficile. Les aider ou leur tendre la main, c'est très très difficile. Mais je pense qu'il y a des tas de stades intermédiaires, qu'il y a beaucoup de situations où on se dit « Ah là là, ils sont trop loin ». Et en fait, ils ne sont pas trop loin. Je dis ça comme ça, mais en me fondant un peu sur mon expérience personnelle. Donc je trouve pas les mots qu'il faut dire. Je dirais plutôt difficulté psychologique.
Pour une question un peu plus large, donc la culture, la santé mentale et la citoyenneté, que pensez-vous de cette association entre les trois?
Je pense que la culture est une pratique culturelle. Plutôt qu'au mot culture, alors là pour le coup vous allez me dire que je suis toujours en train de changer les mots, je dirais plutôt une pratique artistique. Pratique culturelle, c'est large. Pratique artistique, c'est à l'intérieur de la pratique culturelle. Pratique culturelle, c'est lire un livre, écouter de la musique, voir un film. Pratique artistique, c'est vouloir faire un film, c'est vouloir faire de la musique, c'est vouloir écrire un livre, bon, ou toute autre chose. Et je pense que en cas de difficultés psychologiques et de désarroi très très puissant, la pratique culturelle permet déjà de se relier aux autres, et la pratique artistique, dans le cadre de la pratique culturelle, permet de dépasser, de construire avec les difficultés que l'on a, quelque chose qui vous aide et quelque chose qu'on partage. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la citoyenneté vient naturellement. À partir du moment où on est dans un processus de construction, et on se resocialise. On peut rester très différent des autres, mais être quand même, ne plus être en marge. On peut être en marge de la société capitaliste, de la société telle qu'elle existe, ou de certains usages, mais on n'est pas en marge de l'idée qu'on se fait de tous les hommes et les femmes vivant ensemble. Et je pense que ça, c'est important. Donc, la culture, et les pratiques artistiques jouent un rôle énorme quand on est en situation de désarroi, à la fois pour se reconstruire soi-même et aussi pour aller vers les autres, pour redevenir citoyen.
Et donc, quel est l'intérêt de la culture pour les générations futures? Enfin, moi, personnellement, j'ai entendu parler, et ça me dérange. C'est le fait que maintenant, il y a des jeunes, ils préfèrent jouer au tennis sur PlayStation que faire du tennis vraiment. Et ces écrans télévision ou ordinateur, ça crée une distance incroyable entre les gens. Voilà. Alors, en fait, j'ai synthétisé quel est l'intérêt de la culture pour les générations futures, quoi.
Je reprends votre exemple. C'est sûr que même l'usage du portable apporte un surcroît d'isolement. Et moi, quand je suis dans une réunion et je vois que les ministres même sont là en train de tweeter ou d'être sur leur portable, de pas être là où ils devraient être. Il y a une phrase de Montaigne qui dit « Quand je danse, je danse ». C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, je fais ce que je fais. Je fais pas autre chose. Il a raison. Je pourrais faire des pages là-dessus sur une phrase aussi simple. Et j'essaye, moi, quand je fais quelque chose, de faire quelque chose, de le faire. Et donc, je ne cherche pas à zapper, je ne cherche pas à m'évader, je ne cherche pas à faire deux choses en même temps, parce que je ne ferai pas bien ces deux choses en même temps. Et je ne cherche pas, surtout quand quelqu'un me porte son attention, à aller apporter mon attention ailleurs. Donc, vous avez tout à fait raison. En revanche, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop pessimiste des choses. Parce que vous apercevez que toutes les formes techniques nouvelles de communication apportent une aliénation, apportent une agression, apportent un isolement, mais peuvent apporter aussi un champ ouvert formidable. Vous imaginez ce qu'on peut, ne serait-ce que sur Internet, ce qu'on peut acquérir maintenant comme connaissance. C'est fantastique, en fait, si on l'utilise bien, si on le domestique bien. Ce qu'on peut avoir comme contact, les gens à qui on peut parler, qu'on ne verrait jamais, c'est pas forcément d'être sur Facebook et que Mickey téléphone à Minnie en disant j'arrive. Ça peut être aussi de rencontrer une personne qu'on n'a jamais vue, qui vous apprendra des choses très intéressantes et avec qui on pourra nouer une relation. C'est quand même. Donc il faut essayer de le regarder d'une manière positive. Et par ailleurs, les formes de communication technique nouvelle créent aussi des esthétiques nouvelles. Hier soir, je recevais les gens qui font des jeux vidéo donc, que vous venez d'évoquer comme étant quelque chose de très aliénant. Oui, mais en même temps, vous avez des créateurs, vous avez des jeunes au carrefour de la bande dessinée, du cinéma et du scénario qui inventent des choses très très intéressantes. Alors il y a des jeux pédagogiques, à ce moment-là on va dire ah oui, heureusement il y a les jeux pédagogiques, c'est-à-dire Napoléon, comment a-t-il gagné la bataille d'Austerlitz, alors on joue, alors on peut être comme Napoléon, on peut être comme un grenadier, on peut être comme un héros de Stendhal dans la bataille. Bon, ça c'est très bien, mais vous avez aussi des jeux qui sont considérés comme débiles, des sortes de Rambo bis avec des types qui tirent à mitraillette dans tous les sens, mais et en même temps, si vous regardez bien, ils sont quelquefois très bien dessinés, ils sont quelquefois très bien faits. Donc j'essaie dans ce que je fais de ne pas avoir de préjugés, jamais, et d'essayer de voir dans ce qui naît ou dans ce qui se crée, de voir ce qui est porteur de quelque chose de nouveau et d'intéressant. Au fond, c'est pas les jeux vidéo qui sont coupables. Ce sont pas les portables qui sont coupables. Ce sont peut-être les parents qui n'expliquent pas suffisamment aux enfants que avoir un portable c'est bien, mais que lire un livre c'est bien. Aux enseignants peut-être. Enfin, à tout le corps social qui quelquefois abdique ses responsabilités. Mais en soi-même, c'est comme les langues, hein, qu'on avait demandé à Ésope qu'est-ce qu'il y a de meilleur et qu'est-ce qu'il y a de plus mauvais dans la nature humaine. Et il avait répondu les langues. Les langues, c'est ce qui permet de se rapprocher, et les langues, c'est ce qui permet de calomnier et de dire du mal des uns et des autres et de véhiculer un langage de haine. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Il ne faut pas diaboliser, il faut s'opposer à l'usage immodéré, mais il faut en même temps considérer qu'on peut en tirer des ressources nouvelles. C'est vraiment ce que je pense.
En fait, ouais, le portable, à un moment, je disais, moi, j'ai pas de portable actuellement, je n'ai jamais de portable, et je disais, c'est une prothèse. C'est vrai, mais ça peut être aussi une extension.
Oui.
Et c'est après coup, mais au début, il y a encore pas si longtemps, je pensais que c'était une prothèse, mais c'est une extension,
oui,
tout simplement.
Une extension pour l'échange.
Il y a 2 ans, il y a un comédien du Nord que j'apprécie beaucoup, Monsieur Choteau, Jean-Marc Choteau, de la compagnie du théâtre de Tourcoing, qui nous a proposé de jouer pour les Entonnoirs l'éloge de la folie, d'après l'œuvre d'Érasme, humaniste du 16e ou du 17e siècle. Je crois qu'il y a choix sur les 2 siècles. Éloquent comme œuvre, toujours pleine de modernité, mais par rapport à ça, j'ai su que certaines théories voulaient un monde sans fou. D'ailleurs, il y a eu un documentaire qui s'appelle « La monde s'en fout ». Et je crois que c'est la théorie que défend notamment la très controversée Église de Scientologie américaine. Que pensez-vous par rapport à ça?
Alors moi, les sectes et les gens qui ont des réponses toutes faites, je m'en méfie comme de la peste. Hein. Je me méfie beaucoup de la perversité humaine. Ça existe, la perversité. C'est-à-dire les gens séduisants et qui, en fait, vous entraînent et vous font du mal. Et donc, je me méfie beaucoup de ça. Moi, je l'ai côtoyé à plusieurs reprises. Je me méfie de ça. Donc, les sectes sont vraiment perverses. C'est-à-dire, elles se présentent sous un jour rassurant, structurant, et elles vous entraînent au désastre. Elles vous entraînent à l'abandon de votre personnalité. Il faut beaucoup mieux vivre. Je trouve qu'il est beaucoup plus important de vivre avec les difficultés que l'on a que de remettre l'usage de ces difficultés à un groupe qui en fera mauvais usage. Il vaut beaucoup mieux être ce qu'on est avec les problèmes qu'on a que de penser qu'on va devenir un autre grâce à un groupe et la scientologie comme les autres. Hein. Alors je connais pas la scientologie, et je sais qu'en Amérique, beaucoup de gens considèrent que c'est une religion comme les autres. Bon. Moi, tous les échos que j'ai sont négatifs, en tout cas ça m'attire pas du tout. Et donc ce qu'ils disent, je n'y attache pas d'importance, je n'y crois pas.
Pour moi, il n'y a pas de fou, et il n'y a même pas de malade mentaux.
Vous abordiez tout à l'heure l'aliénation par les nouveaux médias, Facebook, tout ça. Que pensez-vous de l'aliénation et de la culture télévisuelle?
Je pense que c'est pareil. Je pense que à la télévision, on peut voir encore beaucoup de choses intéressantes. Et que, voilà, et il faut pas diaboliser la télévision. Il faut lutter pour avoir des bons programmes, ça c'est sûr, mais ça c'est un débat citoyen. On n'est pas d'accord, on est pour, on est contre, on dit qu'on dépense beaucoup d'argent pour et qu'ils nous donnent pas des programmes qui sont suffisamment bien, etc. Mais diaboliser la télévision en disant qu'elle a abandonné toute ambition, c'est pas vrai non plus. On peut voir On peut voir des choses vraiment très intéressantes à la télévision. Et maintenant, avec la TNT, il y a 19 chaînes, il va y en avoir 6 de plus, 25 chaînes gratuites. C'est bien le diable si on n'arrive pas chaque soir à trouver sur ces 25 chaînes un programme intéressant et pour tous les goûts. Et donc voilà, donc je trouve pas. Alors, mais moi, il y a des programmes qui m'agacent beaucoup. Hein. Il y a des choses que je suis très contre. Je trouve que tous les programmes, par exemple, l'information, divertissement, où tout est pareil, où tout le monde ricane, et quelquefois, en plus, c'est terrible, parce que c'est assez drôle. Et moi-même, quelquefois, je vois ces programmes et je trouve ça marrant. Mais en même temps, je trouve pas ça bon. Je trouve que c'est... Il n'y a pas de générosité, il n'y a pas de... Voilà, mais c'est pas pour cette raison que je vais rejeter toute la télévision en disant qu'elle nous aliène. Ce qui nous aliène, c'est la fatigue. Ce qui nous aliène, c'est des heures de travail trop longues. Ce qui nous aliène, c'est et peut-être même pas des heures de travail trop longues, parce qu'au fond, on travaille pas des heures trop longues. Mais ce qu'on travaille, c'est ce qui va avec. C'est l'heure et demie qu'on fait dans les transports le matin et l'heure et demie qu'on fait dans les transports le soir. Quand quelquefois, il m'arrive maintenant de prendre l'avion très tôt, je vois les gens qui sont sur l'autoroute et qui mettent une heure et demie à regagner Paris chaque matin dans la voiture avec le stress et la fatigue. C'est ça qui aliène, c'est ça qui fatigue. Alors qu'après le soir, les gens sont tellement fatigués qu'ils regardent des programmes un peu abrutissants, ça peut se comprendre, c'est dommage, mais ce qui les a aliénés, c'est pas le programme abrutissant, c'est les heures de fatigue qu'ils ont eues dans la journée. Et voilà. Et vous savez, il y avait une émission qui était assez amusante. On était allé voir des gens, on leur demandait ce qu'ils pensaient des programmes de télévision dans un marché. Et alors tous les gens avaient dit « Ah, mais la télévision n'est plus bonne, etc. Nous, ce qu'on aime, c'est les programmes sur Arte, c'est les émissions sur les expositions, c'est les grandes dramatiques. » Alors très bien, on avait dit « Bon, ben, voilà, ça veut dire que vraiment les gens veulent des émissions de très bonne qualité. » Mais les journalistes, ils étaient vicieux, ils étaient allés chez les gens le soir. Et après, ils étaient tombés sur les gens, ils étaient tous en train de regarder des émissions de variété débiles. Et alors, ils expliquaient, ah oui, mais ce soir, c'est spécial, c'est parce qu'il y a la grand-mère qui est là, alors, etc. Ils étaient tous tout rouges et très embêtés. Ça veut dire que la relation avec la télévision, elle est spéciale, quand même.
Permettez-moi, je peux vous conseiller un livre sur la télévision de Michel Desmurgés. TV Lobotomie, vous avez peut-être entendu parler.
TV Lobotomie, non, mais j'imagine ce que ça veut dire.
C'est en fait un archivage de toutes les études scientifiques qui ont été faites sur les effets de la télévision. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour vous, personnellement. Alors, à qui je passe la parole?
Quelle expérience humaine retiriez-vous de votre passage au ministère de la Culture?
Les rencontres avec, je vais vous dire, l'expérience humaine la plus forte que j'ai, c'est tous les petits signes, petits parce qu'ils étaient limités dans le temps, pas parce qu'ils étaient petits comme signification, au contraire, ils étaient très grands. Tous les petits signes qui m'ont été donnés du besoin de culture qu'il y a chez tous les êtres humains. Je vous donne un exemple. Je suis allé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'y avait jamais de ministre de la Culture qui était allé à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est deux rochers perdus au large du Canada. Pendant 6 mois, il fait froid, il y a du brouillard. Et en même temps, l'été, c'est très beau. Et là, dans un petit village, au fin fond, au bout du monde, vraiment au bout du monde, il y avait une association qui avait fait renaître les danses des premiers émigrants qui étaient arrivés au XVIe siècle, avec des messieurs qui jouaient du violon, qui n'étaient jamais allés dans un conservatoire, et des dames qui avaient fait les robes et qui dansaient des quadrilles. C'était d'une dignité incroyable, c'était le désir de culture jusqu'au bout du monde. En Guyane, je suis allé voir des concitoyens français, qui sont ce qu'on appelle les Bushinengue, c'est-à-dire ce sont des Noirs qui avaient fui l'esclavage au XVIIIe siècle et qui se sont réfugiés dans les forêts. Et ils sont français, comme vous et moi, sauf qu'ils ont une culture très très particulière, parce qu'ils ont vécu après pendant 3 siècles dans la forêt. Alors, ils sont d'origine africaine, et en même temps, ils ont transplanté leur mythe, leur légende africaine au cœur de la forêt amazonienne, en contact en plus avec les Indiens. Donc ça a fait une culture très très spécifique, très très spéciale. Ils font des très belles peintures d'ailleurs. Et voilà, ils ont été, eux, abandonnés du monde. Ils se sont même enfuis du monde. Ils ont été abandonnés du monde pendant 3 siècles. Eh bien, le désir de culture chez eux est extraordinairement fort. Et si je rencontre une star de l'opéra, une grande cantatrice couverte d'honneur et de dignité, si je lui parle un peu, je m'aperçois qu'elle vit avec l'inquiétude, qu'elle vit avec le désir de réussir ce qu'elle fait, qu'elle a des moments de joie incroyable quand elle a bien chanté, des moments d'angoisse très très forte, et je vois qu'elle a elle aussi, sous sa forme très sophistiquée qu'est la musique classique, très savante, très sophistiquée, elle a en fait le même désir de culture que le quadrille de Miquelon ou les Bushinengués de Guyane. Et c'est ça que je retire le plus fort de l'expérience d'être ministre, c'est que ce désir de culture existe partout, partout. Et qu'il faut simplement, quand on est ministre, il faut être à l'écoute de ça et essayer de trouver les meilleures réponses pour que ça puisse continuer à s'exprimer. Alors après, il y a un ministère, après il y a 30 000 personnes dans ce ministère, après il y a des règles, après il y a des milliers de théâtres, de compagnies, de gens qui ont besoin d'argent, qui sont pas contents, il y a des tas de choses, il y a des conflits, et c'est normal, et c'est normal. C'est normal, les gens ont besoin aussi de choses matérielles, etc. Mais le fond du fond du fond de l'expérience, c'est pas d'arriver à régler des conflits ou des controverses ou des choses comme ça, c'est de rester à l'écoute de ce que je viens de vous dire.
Comment imaginez-vous votre avenir après le 6 mai?
Après le 6 mai, je pense que je reprendrai ma vie d'avant. Voilà, je pense, c'est-à-dire que j'essaierai de nouveau d'écrire des livres et de faire des films. Et je ne sais pas si ça sera facile, parce que d'abord moi-même, psychologiquement, j'aurai peut-être un grand moment de désarroi. Je ne veux pas du tout être comme les anciens ministres qui essayent de profiter de leur statut pour continuer. Ça m'arrivera peut-être, mais je voudrais éviter ça. Ça m'arrivera peut-être, hein. Je n'écarte pas ce genre de faiblesse. Mais je voudrais essayer d'éviter ça et je voudrais essayer d'être créateur. Et ça sera difficile, parce que je serai de nouveau en train de demander à des gens qui auront peut-être pas tellement envie de m'écouter à ce moment-là, parce que quand ils seront venus me voir, ils seront sentis un peu humiliés. Là, pourtant, j'humilie personne, mais ils auront vécu ça, ou ils se seront sentis, ou ils auront des griefs, ou ils auront plus le temps, je sais pas. Donc, ça sera un changement de vie. Je vais pas retourner exactement à la case départ. Je vais retourner à la case départ avec un truc en plus ou un truc en moins. Je ne sais pas lequel encore. Mais en même temps, mon désir, c'est de retourner à la case départ. Mais en même temps, je suis content d'être ministre. Donc, si je pouvais l'être encore un peu, pas très longtemps, mais deux ans, disons, pour avancer dans des choses que j'ai commencé à faire, je serais très content. Voilà.
Bien, nous... Merci en tout cas de votre invitation. Et là, nous vous remettons donc...
Badge.
Des symboles. Des badges, des affichettes.
Ça, c'est quoi?
Voilà, un présent de la part de l'ensemble de l'équipe des Entonnoirs. Hein? Voilà.
Bah, c'est très gentil. Très gentil.
Voilà.
Merci beaucoup.
Ouais. Ouais, on se verra à Roubaix alors.
Oui, avec plaisir.
Avec plaisir. Ouais.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci de votre patience et excusez-moi pour le retard.
Peut-être qu'un jour on sera collègues dans un ministère. Peut-être. Jamais.
Et vous vous dépêchez parce que je vais avoir 65 ans. Je pourrais être dans la fonction publique.
C'est pas grave, on augmentera l'âge des retraites.
On peut garder mon cadeau tout à l'heure.
Oui, merci.
Alors, vous allez là, là vous allez...
Oui,
oui, je reste avec vous. Bon, alors je vous retrouve dans 5 minutes.
Merci.
C'est toujours... Ouais, c'est bien.
merci.
Il nous a consacré oui. pas mal de temps.
Oui, oui.
Amen. Les entonnoirs.
Cher Erika Schroeder. Précurseur en France, Les Entonnoirs est une émission un peu punk, un peu thérapeutique, qui donne la parole à des personnes atteintes de difficultés et à des infirmiers aussi. Prendre la parole pour dire des choses, c'est comme ça que peu à peu, on pourra changer l'image de la psychiatrie. Le soir de l'enregistrement, on n'a pas besoin de somnifères pour dormir, confie une intervenante. Et effectivement, cher Erika Schroeder, Les Entonnoirs contribuent à changer le regard sur ce que certains appellent les maladies mentales et pour lesquelles moi je ne trouve pas de nom. Parce que je préfère penser aux difficultés, au désarroi, à la détresse. Vous connaissez bien le sujet et pour cause, vous êtes infirmière en psychiatrie de formation. Au début des années 80, vous commencez votre vie professionnelle à l'hôpital Ulysse Trella, qui fut un pionnier dans la mise en place dans le Nord de la sectorisation psychiatrique. En 1992, vous participez à la création du premier centre d'accueil permanent, Ilopsy, dans le quartier de Oisem, à Lille. Vous y travaillez pendant 10 ans et vous voyez la fusion du Listrella et de l'hôpital de Lomelé, dans un établissement commun, l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise. S'en suivent des années où, devenu cadre de santé, puis cadre supérieur de santé en 2008, vous travaillez au centre médico-psychologique Philippe Pommel et participez au développement des pôles roubaisiens. Durant toutes ces années, vous n'aurez eu de cesse de mettre en place de nombreux projets en lien avec les associations culturelles et sportives pour permettre l'insertion des patients dans la vie de la cité. Engagé pour l'insertion, la citoyenneté, la réhabilitation des personnes malades, vous imaginez en droite ligne de vos préoccupations en 2004 le projet des Entonnoirs. C'est à la suite d'une expérience de radio éphémère dans le cadre du festival Extramundi de Roubaix où vous vous êtes rendu compte de la richesse d'une telle expérience que vous vous lancez dans la création de cette émission de radio. Patients et soignants se sont formés à la maîtrise de la technique et en faisant collaborer les milieux culturels et médicaux, les entonnoirs sont devenus un véritable instrument de soins, mais encore de décloisonnement de l'hôpital. Le projet est financé tout d'abord par des fondations comme Solidarité est désormais régulièrement accompagné par le programme Culture à l'hôpital, avec des subsides émanant de la Direction régionale des affaires culturelles et de l'Agence régionale de la santé Nord-Pas-de-Calais. Je salue votre travail, Erika Schroeder, de la manière la plus sincère et la plus chaleureuse. Votre travail est celui de votre équipe. Et j'en ai encore eu l'occasion il y a un instant. Car au-delà de la question des soins, vous redonnez aux patients leur pleine place citoyenne dans la société. Les entonnoirs représentent un modèle d'initiative qu'il faut absolument développer et que vous avez porté d'une manière magnifique. Pour toutes ces raisons, cher Erika Schroeder, au nom de la République française, avec honneur et gratitude, nous vous faisons chevalier dans l'ordre des arts et des lettres.
Un petit peu embêté au micro parce que les entonnoirs, le micro c'est bien, ils se débrouillent vachement bien, moi je me débrouille nettement moins bien. Mais un projet, avoir une idée c'est bien, mais je pense que c'est pas suffisant et c'est pas grand chose si on n'a pas un projet, et un projet c'est rassemblement de personnes. Et aujourd'hui je voudrais mettre à l'honneur parce que moi je porte ça et j'en suis très fière. J'ai eu du mal à intégrer, mais c'est vrai, j'en suis très fière pour mon équipe, et particulièrement pour Blandine Bonnet et Ahmed Hadouche, qui sont avec moi depuis 17 ans. projet innovant comme ça, faut pouvoir faire croire aux gens que ça va marcher. Et ça a été des vacances qu'on a supprimées pour travailler. C'est des heures sup, des nuits entières à enregistrer les émissions parce qu'il a fallu faire tout ça avant qu'on nous prenne au sérieux. Et c'était les radios qui nous diffusent, qui disaient bah, « on va vous voir une fois ou deux ». Et puis maintenant, ils me disent « Erika, ça fait 7 ans quand même que t'es là ». Et donc... voilà, c'est mon équipe et les entonnoirs qui sont représentés aujourd'hui par Margot, par Jérôme, par Bruno, Johan qui doit être quelque part. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose, les entonnoirs, la tribu des entonnoirs, j'ai envie de vous dire une chose, surtout changez rien à ce que vous êtes. Je crois que s'il y a quelque chose qui doit changer, c'est notre regard sur la maladie mentale. C'est la société qui doit changer, mais c'est pas vous. Voilà.
Bravo.
When it gets dark, we go home. Just a perfect day.
C'est toi la vedette, Erika.
C'est les vedettes.
La représentante des vedettes. La représentante des vedettes, pour être représentant de vedettes, il faut être vedette soi-même.
D'abord. Alors on est tous des vedettes. On est tous des vedettes.
Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
D'avoir rencontré des têtes connues, Monsieur Lacloche, Madame je sais plus comment, de la DRAC. Et ça a l'air d'être un endroit chaleureux.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Et écoutez les entonnoirs en podcast sur le blog des entonnoirs http://lesentonnoirs.over-blog.fr.
parce que c'est des entonnoirs, parce qu'il donne plus fou dans ma tête, et ça gratte des poux sur ma tête, et je viens plus fou, c'est ça, les entonnoirs.